RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Viva, ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Il est 23h, c'est l'after. Vous êtes sur RMC, bien entendu, avec Pierre Ducroux. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Nicolas.
T'as bonne mine, toi.
Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Daniel Riolo.
Hey, les amis. Où est-ce que t'as passé le week-end? Ah non, t'étais en vacances.
Ah, oui, non, pas en vacances. Mais
Ah, si, t'étais en vacances.
Ouais, 4 jours.
Bah ouais, c'est des vacances.
4 jours,
c'est non, c'est pas des vraies vacances. C'est une coupure.
Ah, toi, c'est combien de temps?
Des vraies vacances, c'est 10 jours. Minimum. 10 jours au moins.
Ah, en dessous, c'est juste une coupure.
C'est vrai que t'as pas une
semaine. Une semaine, ça commence
à être. Et t'étais pas à Marrakech?
À Marrakech, ouais.
Ah, et se préparer pour le. Comment il s'appelle le.
Sur le tournoi de.
J'ai pris mes repères.
Le 6 mix. Tu crois que j'ai fait quoi? J'ai pris mes repères. J'ai été voir. J'ai fait comme l'équipe de France avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que j'ai été visiter l'hôtel où j'allais m'installer pour les tournois de poker.
T'as visité les installations?
J'ai visité les installations, la salle de massage pour récupérer, etc.
C'était bien?
Ouais, c'était bien. Ouais. Bah, le soleil, quoi.
Ça fait un peu de montagne autour et tout.
Non, j'ai pas bougé. Honnêtement, ouais, je me suis.
Très bien.
Je suis contenté au transat et au repos.
Voilà, ah si, oui. Voilà, si ça vous intéresse, piscine. Vous pouvez rester avec nous.
Non, mais
si Daniel fait allusion au Sismix et à ce fameux tournoi de poker qui a lieu à Marrakech, c'est parce que ce soir, il y a aussi le RMC oui. Poker Show, il en parlait d'ailleurs tout à l'heure.
Et bientôt, il y a le Sismix.
Il y a le Sismix, exactement.
Ouais.
Ravi d'être avec vous, messieurs. Petite précision juste avant, on vous avait annoncé que ce soir, on ferait une spéciale sur le livre à venir qui a été fait par certains membres de Paris United. Alors, ça a été reporté, sachez-le. Alors, tout simplement parce que...
C'est impraticable, tout simplement.
Exactement. Les conditions météo ne s'y prêtaient pas, puisqu'il revenait de Marrakech tout bronzé. Non, rien à voir. Disons que ça avait été décidé un peu tardivement. Gilbert Bribois a communiqué là-dessus sur Twitter tout à l'heure. On va faire les choses bien et de façon organisée. Donc, ce n'est que partie remise. Nous, on va revenir. On va s'arrêter.
Et on espère jeudi soir, si tout va bien et qu'il n'y a pas de contre-indication. Si tout le monde aussi reçoit le bouquin, parce qu'on ne l'avait pas tous.
Oui, alors moi, ça a été l'un des problèmes. Voilà.
J'avais eu le privilège.
Moi, j'irai l'acheter. D'ici jeudi,
qui n'est pas un détail.
Moi, ce qui m'embête, c'est que jeudi, je serai pas là, quoi. J'aurais bien aimé parce que ce soir j'étais
donc,
là.
Donc ça va, t'es pas obligé.
Bon, si, je vais le lire quand même. Si, ça m'intéresse.
Moi j'avais eu le privilège d'avoir des extraits, des bons extraits, mais pas encore le bouquin. Donc c'est un peu compliqué quand même de parler.
Ouais,
de
ouais,
que
non,
t'as pas lu complètement.
Vaut mieux lire et en parler après.
Donc voilà, donc tout ça a rendu la chose très compliquée. Et voilà.
Alors ça dit, on vous attend au 32-16. On va revenir sur l'équipe de France. L'équipe de France qui jouera mardi face à la Russie. L'équipe de France qui s'est inclinée vendredi, vous le savez, 3-2 au Stade de France face à la Colombie. Quelques petites infos d'ailleurs concernant l'équipe de France. Alors Varane est touché à la cheville. Petite info de Tristan Molineri. Raphaël Varane qui était absent de l'entraîneur de l'entraînement ce dimanche soir. Il était absent de l'entraîneur. Là tu la notes, mon gars.
C'est plutôt bon.
Il souffre d'une tension à la cheville, sachez-le. Il a travaillé en salle sur un vélo. Il a beaucoup pédalé, voilà, et du coup il devrait être en Russie quand même.
Tout à fait.
Voilà, du déplacement. Voilà, ils font voyage demain.
Donc il sera en Russie, présent dans l'entraîneur.
Ouais. Faire le voyage dans l'entraîneur. Mendy, vous savez Mendy, Benjamin Mendy, il est toujours là. Alors il était présent au Stade de France, il a assisté à la rencontre avec le reste de ses coéquipiers. Il est en phase de reprise, le latéral de Manchester City. Alors il a enquêté Tristan Molineri, il a été examiné par le staff médical de l'équipe de France à l'occasion de cette visite au sein de l'équipe de France. Alors c'est vrai que c'est aussi une preuve que Didier Deschamps l'a quand même sous l'œil, notre ami Mendy. D'ailleurs, alors, c'est l'un de tes avis tranchés qui viendra tout à l'heure.
Soit c'est une preuve que Didier Deschamps l'a sous le coude, comme tu dis.
Ou qu'il n'a pas d'autre solution.
Ou alors c'est parce qu'il l'avait sous le coude qu'il l'a examiné, du coup.
Il y a un peu des deux, effectivement.
Ah oui, il était là, c'était l'occasion de le voir, de discuter un petit peu. Je pense qu'on fait beaucoup sur l'examen médical, quoi qu'il arrive, il y en aurait eu un, examen médical, le staff français serait peut-être déplacé là-bas, ou il serait peut-être venu le faire. Là, il était là, il est venu voir le match, il l'examine. Moi, je trouve ça normal, quoi.
C'est quand même étonnant, et c'est dire la détresse qu'on a à ce poste-là. Mendy, il a même pas 10 sélections en équipe de France. Et il vient, c'est très bien qu'il vienne, hein, je suis pas en train.
Ne spoilons pas la vie tranchée de.
Mais c'est pas la vie tranchée,
Pierre,
ça.
Non, mais c'est celui de Pierre.
Et le mec, il est là, il vient, on s'intéresse à ce qu'il fait pas, t'es en forme, t'es pas en forme, tu as 3 mètres
ou
pas.
Ouais, tu l'as dit, il y a une carence au poste. Hein.
Ouais, mais voilà, mais le gars, c'est pas un taulier de l'équipe de France, quoi. C'est très bien.
Logiquement,
là,
non.
Il faut souhaiter.
On y reviendra tout à l'heure, ce sera l'avis
de. Fonctionnement.
Le contenu de ton avis tranché, mon cher Pierre Ducrot. Aujourd'hui, en conf de presse, il y avait Olivier Giroud et Lucas Hernandez. On va commencer par écouter Lucas Hernandez. Vous savez que Lucas Hernandez avait fait pas mal d'interviews ces derniers temps dans les médias espagnols. Et alors, il est en Espagne depuis qu'il a l'âge de de 4 ans, le défenseur. Et il avait annoncé récemment d'ailleurs qu'il n'était pas contre le fait de jouer en équipe d'Espagne. Ça avait fait beaucoup parler en France, ça avait fait beaucoup parler en Espagne forcément. Il est revenu là-dessus. Il avait un peu teasé d'ailleurs ces derniers jours en disant « Je vais m'exprimer, je vais raconter la vraie histoire en conférence de presse, ça se passera samedi. » Tristan Molineri et Arnaud Valadon y étaient. Écoutez Lucas Hernandez qui se dit fier de jouer pour l'équipe de France.
C'est vrai que l'Espagne m'a tout donné, mais ça ne quitte pas que mon pays c'est la France et que pour moi c'est une fierté de défendre le maillot bleu. Après, comme j'ai dit avant, je suis un joueur très ambitieux et voilà, peut-être il y a eu des mots que ça s'est mal entendu ici en France, mais dans un aucun moment j'ai voulu dire que mon pays c'est l'Espagne et que la France c'est pas mon pays, c'est tout l'inverse. C'est l'Espagne qui m'a tout donné, c'est vrai, c'est une vérité. Mais mon pays de naissance, mon pays de que c'est à moi, c'est la France. Et c'est une fierté de pouvoir être français, comme toute ma famille est française.
Voilà, il met fin à l'histoire, hein, Lucas Hernandez.
Finalement, il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est un garçon.
Je comprends pas. C'est à chaque fois, putain, mais
ça va arriver de plus en plus longtemps.
Est-ce qu'un mec peut choisir une sélection juste parce que son cœur lui commande quelque chose?
Ouais, enfin, là, en l'occurrence, sa communication, elle a été un peu titubante. D'ailleurs, il a dit lui-même. Deschamps, il m'a pas appelé, j'avais pas de nouvelles, donc à ce moment-là, il a parlé.
Je pense qu'il a allumé un petit peu la mèche pour faire réagir l'équipe de France, parce qu'il avait très envie, justement, de
la question, en l'occurrence,
qu'on lui fait pas d'appel. Tu me permettras d'y pas y croire.
Ah, moi, je suis pas sûr.
C'est ce qu'il dit.
Écoute. Moi, ça me gave un petit peu parce que les mecs nous prennent pour des cons, racontent des histoires. Moi, ce que j'aime, et je ne juge mais personne, le mec qui veut jouer pour le pays de ses origines et tout, je trouve ça même à la limite sain tant que le cœur commande. Tout ce qui est les bricolages derrière, mais ça me fait chier! Mais ça me fait chier ces bricolages en permanence. Et t'avais dit ça, et j'ai dit ça. Putain, mais arrêtons de nous prendre pour des crétins. Lucas Hernandez, ok, là il vient parce que les mecs l'ont appelé. Avec nous, t'as une opportunité parce qu'on est en carence totale d'arrière gauche. Mais s'il y en avait eu, eh ben il serait pas venu. Là, t'as une Coupe du Monde à jouer, il y a peut-être personne.
C'est
parce
possible.
Que Mendy jouera peut-être pas. Eh ben
c'est
tu
possible,
viens.
Sauf que
et
là,
peut-être
sauf
qu'en Espagne,
là, en face, c'est
bouché,
l'Espagne.
Parce qu'il y a Jordi. Le mec, il est espagnol. Faut arrêter. Il a grandi là-bas, il a jamais rien connu d'autre.
Je dis pas comme toi, Daniel. Non, je dis pas comme toi.
Il a jamais rien connu d'autre.
Enfin, il dit pas qu'il est espagnol. Il dit les deux.
Il a une grande histoire avec l'Espagne, bien entendu. Quand t'arrives à 4 ans dans un pays, bien sûr, tu grandis dans un pays, t'as tes repères là-bas.
Oui, mais ceci dit, à un moment donné,
j'en reviens à ce que je dis.
Des repères de vie de 4 ans jusqu'à son âge aujourd'hui, c'est important. Les origines. Avoir toute ta famille qui est en France, ça peut être aussi très important.
Mais c'est pour ça que je dis, et ça n'est pas une contradiction, le mec,
il fait ce qu'il veut.
Sauf que, parfois et très souvent, c'est de l'opportunisme. Alors, je suis même prêt à comprendre l'opportunisme. Mais ne venez pas nous raconter. J'avais envie de faire ça, la belle histoire. Arrête, putain.
Tu sais quoi?
Moi, je pense. Dis-nous, j'avais une opportunité de jouer là. Je suis venu.
Je pense que très souvent, c'est pas que l'opportunité, c'est aussi le.
Mais c'est aussi
que c'est une situation difficile pour blesser personne en fait. Je crois que c'est très compliqué
de
communiquer là-dessus.
Et oui donc et c'est. Mais oui dis les choses comme elles sont. Mais qui va t'en vouloir, mec? On s'en fout.
En gros, là, quand il dit, si il dit la vérité, par exemple, même si ça l'est peut-être pas, mon cœur est français. J'ai envie de jouer pour l'équipe de France. Et ben peut-être qu'en Espagne, on va lui casser les bonbons.
Et puis c'est même pas comme les mecs qui ont des origines comme Nico ou comme moi qui. Toi, t'es né ici en plus, comme plein de mecs qui sont en équipe de France, qui sont nés ici, qui jouent pas, mais qui ont des origines et des fois
La différence avec Nico, c'est que lui, il est pas en équipe de France.
Voilà.
Ça dépend de Portugal, ça dépend de quoi.
Mais il y a un lien, fort parce que t'y retournais, parce que lui, il a grandi en Espagne et basta, voilà. Il a eu l'opportunité, comme toi, ça se trouve t'aurais eu, et puis t'aurais choisi en fonction peut-être de l'opportunité et tout, mais qu'il vienne pas nous faire le coup de violon. J'ai envie de ça. C'est bon.
Personnel.
Quand tu dis que Nico.
Ça dépend vraiment de la situation.
Nico, il retourne au Portugal régulièrement, etc.
Ne venez pas raconter d'histoire. Dites les choses comme elles sont.
Le gars, quand tu dis qu'il retourne au Portugal régulièrement, Nico, etc.
Lucas Hernandez, il veut jouer pour l'Espagne au départ.
Non, lui, il est jamais allé au Portugal, je crois.
Non. Mais lui, il a toute sa famille en France.
Il
a aussi un attachement pour l'Espagne.
Au départ, il voulait jouer pour l'Espagne. Basta. C'est bon. On s'en fout. C'est pas important.
Je suis pas persuadé. Moi, je peux croire que ce soit une manière de titiller un peu la France pour que ça bouge.
Écoute, c'est comme Fekir à l'époque. il voulait jouer pour son pays d'origine. Très bien, tant mieux pour toi, mec. Je t'applaudis dès demain, vas-y. Bon, après, on lui a fait un petit lavage de cerveau. L'agent, non, mais joue pour la France, machin. Et donc, il est venu. Tu te souviens le pataquès que ça avait fait.
Et c'est vrai que tant qu'on...
Soyez nature, bordel.
Il faudrait que la place de la sélection nationale, enfin, que la sélection nationale est une autre place.
Sauf que c'est pas nature pour la plupart du temps, parce qu'il y a des intérêts commerciaux.
C'est ce que je te dis. Il faudrait que la sélection nationale
et d'autres. Parce que évidemment, si tu joues pour, il y a des pays, ça te rapporte plus que de jouer pour.
Oui, puis en termes de visibilité, en termes de résultats, de balles, etc.
Moi, j'aime bien quand les mecs sont nature. Il y en a plein, d'ailleurs, qui ont fait les choix. Comment s'appellent tous les mecs qui, à un moment, ont voulu jouer pour leur sélection Maroc? Là, il y en a eu plusieurs des joueurs. Là, il y a eu le petit jeune qui est parti en Allemagne là. Bon, bref.
Harit, oui, qui a Schalke.
Très bien, le mec, c'est son cœur qui parle. Mais vas-y, si tu te sens lié à... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais les mecs qui nous font toute leur comédie, là, moi, ça me fatigue un peu.
Alors, en conf de presse aujourd'hui aussi, il y avait Olivier Giroud, alors, qui avait marqué le premier but d'ailleurs vendredi du match face.
Et puis pour terminer, je vous en remercie. Après, il y a ceux qui ne peuvent pas choisir parce que leur cœur est partagé en deux.
Ils sont pas appelés.
Et là, je peux comprendre aussi, on l'a tous vécu ce truc-là.
Ouais. Olivier Giroud donc, qui était en conférence de presse également aujourd'hui, premier buteur du match face à la Colombie, il est revenu justement sur cette défaite face au Café Teres, et pour lui l'équipe de France avait un joker.
On a la chance d'avoir eu un joker pour entre guillemets faire cette erreur maintenant et pas pendant la Coupe du Monde. C'était un match amical, faut pas l'oublier, mais il faut surtout pas oublier les enseignements à tirer de cette deuxième mi-temps qui nous a pas permis de gagner ce match et de continuer sur notre bonne série. On s'est simplement relâché, on pensait que le score était acquis à 2-0, je dirais la victoire était acquise, donc encore une fois, il faudra se souvenir de ce match-là. Si on est dans la même situation dans un match à la Coupe du Monde, il faudra penser à ça et se dire pas refaire les mêmes erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs.
Voilà, ça coule de source, c'est logique ce que dit Olivier Giroud, mais cela dit, c'est pas bête, hein. Vaut mieux le perdre maintenant qu'après.
Ah non, mais
il y aura des enseignements à tirer.
Si, comme il dit, ça sert de leçon et qu'il s'en rappelle le jour J quand il y aura un match un peu plus facile ou en tout cas un match où ils sont bien pour pas se. Bon, oui, bah oui,
mais c'est si ce match, effectivement, il y a un problème d'attitude, comme il a été beaucoup dit après, on a été un peu ceci, cela, ou si c'est le signe aussi de certaines limites de l'équipe de France. Parce que c'est bien beau de dire on n'a pas su, ouais, mais est-ce que t'as pu?
Ah, moi je pense que c'est grandement un problème d'état d'esprit quand même. Quand tu vois les efforts faits défensivement en seconde période par et je parle pas forcément des défenseurs.
Ouais, Pierre, moi je sais pas, moi je trouve que c'est un peu simpliste comme explication parce que en face t'as une équipe qui a haussé le ton, qui a fait un petit changement tactique avec des bons joueurs de ballon, ils t'ont mis à l'amende. Je trouve que c'est un peu simple de dire ouais, mais c'est nous qui avons été suffisants, nonchalants. C'est un peu réduire la performance des autres. Moi, je trouve que les autres ont fait un bon match. On va voir mardi ce qui va se passer parce que les Russes aussi veulent se racheter de leur défaite contre le Brésil.
Et pas seulement de celle-là, une victoire sur les 7 derniers matchs pour les Russes.
J'ai vu une grande partie du match contre le Brésil. J'allais dire le score est lourd. Non, mais à un moment de la rencontre, avant que ça commence à défiler un peu pour les Brésiliens, les Russes ont 2-3 belles opportunités qui peuvent donner une autre tournure. Alors après, c'est pas une grosse équipe, hein, attention, hein. Mais il faut un Brésil qui commence à régaler, quoi, pour les battre. Hein. Donc, je trouve. À un moment, je me suis même dit, putain, c'est un peu lourd.
C'est vrai que ça va être en Russie. Pour revenir sur le pays organisateur, ça va être. Enfin, il va y avoir de l'ambiance.
Ils vont vouloir se racheter. Ouais, sûrement, peut-être même meilleur contre les Brésiliens.
Ouais. Pour revenir sur l'équipe de France contre la Colombie, je peux te rejoindre, Daniel, quand tu dis que c'est pas exclusivement parce que l'état d'esprit des Bleus n'y était plus que les Colombiens ont réussi à revenir dans ce match, parce que comme le Pérou d'ailleurs, où il faudra se méfier parce qu'il y a énormément de qualité dans l'équipe du Pérou et les voilà ce genre de qualité aussi.
Il paraît que l'Amérique du Sud c'est bidon, la zone AMSUD c'est du sucre pour se qualifier.
C'est loin d'être bidon.
À chaque fois j'entends ça moi.
C'est loin d'être bidon.
À chaque fois j'entends la zone AMSUD c'est crème.
C'est loin d'être bidon. C'est loin d'être bidon. Ce sont peut-être. Je te dis pas que le Pérou va aller en demi-finale de Coupe du Monde. Je te dis que dans une poule où t'es avec le Pérou, il faut s'en méfier et faire le bon match pour gagner.
Les Sud-Américains sont mauvais, ça joue au ballon.
Exactement. Ouais, puis t'as toujours cette partie de Grinta où c'est pas des mecs qui lâchent facilement.
Et surtout quand ils jouent pour l'équipe national, ils rigolent pas.
Il y a une autre valeur. Et donc, pour en revenir à ça, je te rejoins là-dessus.
C'est pas le Honduras.
Je pense que c'est une accumulation, ou en tout cas, une addition de choses. C'est que les Colombiens, effectivement, sont pas des manches, mais qu'à un moment donné, le match, tu l'as en main, et que c'est toi aussi qui leur permet de revenir dans le match un petit peu quand même.
Mais si on va basculer dans les avis tranchés, voilà, hier on en a fait également. On va commencer par ton avis tranché ce soir, Daniel.
Ah bon?
Daniel, il le dit, bon, il a répété un peu mes propos, hein, parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps.
Daniel, souvent, s'inspire des plus grands.
Bah là, oui, c'est le cas.
Alors, Daniel.
Mais c'est vrai, moi, je m'inspire toujours des plus grands.
C'est vrai, ton avis tranché.
Donc... J'étais déçu, par contre, j'ai pas vu Jérôme Rotten dans l'équipe des légendes. Tu sais, le petit match qu'il y a eu, non? Vous avez pas vu?
Non.
Non? Ah ouais? Le petit tournoi qui a été organisé, non? Putain, je pensais le voir dans l'équipe des légendes, j'ai pas.
Dans Legend Game.
Ouais, Legend Game, voilà, c'est ça.
Oui, je voulais revenir effectivement sur ce qui s'est passé et les la défaite donc et les conséquences qui peuvent être en tirées. C'est vrai que ces derniers temps, quand l'équipe de France connaît un revers, on a vite tendance à tailler ceux qui étaient sur le terrain en disant ah mais s'il y avait eu un tel, s'il y avait eu un tel. J'aimerais juste, c'est mon avis du soir, qu'on se méfie un petit peu ça parce que je crois pas que. Imaginons que ça gagne en Russie, ce qui peut être imaginé. Même si un jour, parenthèse ouverte et vitre fermée, il faudra aussi se pencher sur le bilan de Deschamps, qui au niveau des fêtes commence à être un petit peu important quand même. Mais bon, voilà. Oh, bref.
Il est pas si mauvais que ça le bilan de Deschamps. Quand même.
Oui, il commence à y avoir pas mal de défaites.
En termes
si
de résultats, peut-être ouais, pas en termes de.
Il commence
choses,
à y avoir beaucoup de défaites. Tu ouais. verras si tu regardes. Je referme la parenthèse.
Okay.
Donc, il est probable qu'il y ait une réaction contre la Russie. Il est envisageable qu'on batte la Russie.
La Russie étant pas le même adversaire, effectivement.
Mais ça veut pas dire que les mecs qui vont jouer contre la Russie, si ça se passe bien, sont absolument les nouveaux intouchables et qu'on oublie et qu'on met à la cave. Ceux qui étaient là contre la Colombie, si tant est qu'on s'en tienne en plus à la théorie que t'as un petit peu développée et que les mecs ont voulu mettre en avant, que c'est un problème d'attitude, même si je suis pas complètement sûr que ce ne soit que ça. Oui, Nico, tu me fais.
Je rouvre la parenthèse et je la referme très vite. 15 défaites.
Oui, c'est comment
en
ça 72
matchs pour Didier.
Ça commence à chiffrer. Ça fait une petite vingtaine de pourcents. Ça fait une petite vingtaine de pourcents de défaites. Moi, je te dis que ça commence à compter. Mais bon, pareil qu'il a la culture de la gagne. Un jour, il faudra se pencher là-dessus. Bref. En tout cas, quand ils se retrouvent face au Portugais, ils flippent leur nerf grand.
Ça change.
Donc, oui, n'interrompt pas forcément ceux qui étaient là. Je trouve que au-delà des mecs qui étaient présents, c'est réellement le système qu'il va falloir trouver. Le style, on oublie parce que de toute façon, on n'en aura jamais. Ça va être trop tard pour construire quoi que ce soit de ce côté-là. Mais
sauf si on arrête de chercher un style qui ne nous correspond pas.
Peut-être. Oui, mais je sais pas du tout quel sera celui qui va nous correspondre. Bref, pour terminer, c'est plus l'adaptation du système. Enfin, pardon, parce qu'on est, les Colombiens ont rapidement changé quelque chose en deuxième mi-temps. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on va démarrer en 4-4-2, là, j'ai un petit peu de mal à croire qu'on
revoit
si vite.
C'est le classique.
4-2-3-1, 4-3. C'est très bien qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse en avoir un ou deux systèmes. C'est même plutôt conseillé. Mais faut pas qu'on en ait la moitié de chacun d'eux, quoi. Faut pas qu'on ait
un 4-4-2
bancal, un 4-3-3 bancal, un 4-2-3-1 bancal. Ce sera bien qu'on en ait deux, mais deux qu'on arrive à maîtriser. Là, pour l'instant, je sais pas trop vers quoi on se dirige.
Ton avis sur l'avis de Daniel Pierre?
Ouais, moi en termes de style, moi je pense qu'on aurait pu gagner du temps. Après, je suis pas sélectionneur, mais je pense que les profils, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Yo Charbonnier entre 20 et 21h. Je suis persuadé qu'on a des profils où t'as plus un jeu à jouer en 4-3-3 avec des mecs qui vont bouffer les espaces devant, limite à subir un peu plus, avoir un peu moins le ballon et à jouer sur la vitesse, l'explosivité des mecs devant. Qui plus est, avec des mecs dans les couloirs qui vont être capables de faire des efforts défensifs, on en revient à ce bloc qui a fait défaut en seconde période. Donc pas un Mbappé sur un côté, qui fait pas suffisamment pour moi de repli défensif. Plutôt un Dembélé ou plutôt un Lemar, plutôt un Griezmann sur le côté. Voilà, plutôt mettre un Mbappé explosif devant dans l'axe. Donc oui, moi on cherche notre style. Après, il y en a qu'un qui décide de ça, c'est le sélectionneur. Donc malheureusement, oui et non, hein, ça va peut-être lui donner raison, on sait pas encore, hein, mais on est dépendant de ça. Est-ce que pour revenir sur le début de la vie de Daniel, est-ce que les absents, attention de pas donner raison aux absents, c'est-à-dire à ceux qui n'auront pas été contre la Colombie et qui vont faire peut-être juste le taf contre la Russie. Ouais, je suis assez d'accord. Moi qui milite par exemple pour un Kimpembe dans l'axe derrière, est-ce que Kimpembe aurait fait mieux contre la Russie dans un bloc défensif collectivement défaillant en seconde période? Peut-être pas. C'est vrai. Les absents ont souvent raison.
raison, sauf qu'en football, c'est rarement vrai. Tu peux pas remplacer, enfin tu peux pas savoir ce qu'un absent aurait fait à la place de l'autre pendant un match. Tu peux pas refaire le match. Donc méfions-nous, effectivement, faut faire confiance à ceux qui jouent pour l'instant. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de choix à faire. Alors ça peut être une richesse d'avoir beaucoup de choix face à soi quand on est sélectionneur, et en même temps ça peut être compliqué quand on n'a pas un qui finalement se détache.
Attends, ouais,
se
il détache faut, il faut devant. Se méfier quand t'as l'embarras du choix de pas te retrouver.
Ça veut dire que t'as pas de vrai leader ou de vrai titulaire.
De pas te retrouver qu'avec l'embarras.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai.
On va se retrouver avec.
C'est ce que j'essayais de dire.
Aurélien.
Non, bien.
Ouais, mais c'est une demande. Aurélien nous a appelé au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Salut Aurélien.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Aurélien. Ça va Aurélien?
Ça va très très bien.
Alors Aurélien, est-ce que les absents, il faut se méfier donc du les absents ont toujours raison comme
est-ce
dit
que t'as profité de cette journée de soleil aujourd'hui?
Oui, déjà. Alors moi j'ai profité de
l'humain,
Nicole,
la question là dans les rapports, mais de l'humain quoi.
C'est vrai que je suis un mec tellement froid moi.
Alors moi j'ai profité de ces journées de soleil parce que enfin on a du soleil. Et ça faisait quand même longtemps.
Qu'est-ce que t'as fait de beau
là?
Fais-nous rêver, t'as fait quoi de ta journée?
Non, mais t'étais de où Aurélien? T'es de où? De Paris?
Moi je suis de Dijon.
Ah ok, d'accord. Voilà. Parce que moi le soleil à Paris, tu l'as vu Daniel toi?
Ah oui, il a fait super beau.
C'est super beau aujourd'hui.
Écoutez les gars, j'étais à pas de famille. On a mangé des œufs en marmite. Après, on a mangé de la canette confite avec des petites pommes de terre.
Rissolé à la graisse d'oie, j'espère.
Attends, continue.
C'était presque un petit peu lourd pour le climat.
Des pommes de terre rissolé avec la graisse de la canette.
Ah,
avec...
oui, la canette, bien sûr, c'est pas du magret. Oui, bien sûr.
C'était un peu lourd quand même, non? Après, t'as fait la sieste.
Bah, et du coup, deux, trois bouteilles de la région, une petite balade dans la forêt à côté. Très bien.
Belle journée.
Et je vais vous dire un truc, enfin...
Mais qu'est-ce que tu viens de faire chier à l'after, là, je comprends pas.
Alors, bah c'est le soir. Là.
Je vais vous dire pourquoi je vais me faire chier à l'after, parce que je passe de temps en temps pour parler du PSG.
Ouais.
Et à chaque fois que je lance un sujet, Daniel me coupe et parle pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Ouais, on a tous le même problème.
C'est pareil pour tout le monde.
Écoute, moi je passe des fois dans les grandes gueules, et dans les grandes gueules j'ai le droit de réponse. Daniel il part tellement dans ses trucs que j'ai pas le droit de réponse, et le pire c'est que je suis souvent d'accord avec lui.
Bon, je me tais.
Et tu sais quoi, on va te couper, on te retrouve demain matin dans les grandes gueules, donc à partir de 10h. Salut Aurélien, bonne soirée,
on t'écoute.
Vas-y Aurélien. Non,
honnêtement, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain et je viens fréquemment dans l'after pour le PSG. Là je suis très content de réagir sur l'équipe de France, sur l'équipe de mon pays, et je suis très content. Je pense que avant que les absents ont toujours tort, il y a un vrai problème à l'heure actuelle.
Ils ont même toujours raison en l'occurrence, là. C'est ce que dit Daniel.
Toujours tort ou toujours raison.
Non, c'est ce que justement je ne savais pas dire.
Oui, bah Lionel Letizy ne joue plus, mais il est absent et il a toujours tort aussi. Hein.
C'est vrai.
Non, franchement, j'ai un problème. J'ai bientôt 38 ans, donc je ne suis pas un vieux qui a connu la grande époque des équipes comme Saint-Etienne et compagnie.
Et t'as pas de meuf.
J'ai un problème avec le football moderne.
Ah, c'est quoi?
Mon problème avec le football moderne, moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, c'est que on aime les mecs qui dribblent, les mecs qui font du champagne, les mecs qui valent 100 millions, 180, 200 millions, et on se met à genoux devant lui, devant eux. Mais ce week-end, vendredi, un mec comme Mbappé, qui est jeune, qui est très fort, et que le Paris Saint-Germain a acheté 180 millions, il a fait un petit peu son match, mais encore une fois, certaines fois, il n'a pas pris les bonnes décisions dans le jeu collectif. Et je pense à l'heure actuelle que dans les gros clubs européens et encore dans les gros clubs de nations, les mecs, au lieu de venir jouer pour leur maillot, pour leur pays, ils viennent jouer pour faire les stars. Et devant le but, ils sont pas capables de faire la passe, ou au milieu du terrain, ils sont pas capables de faire le jeu. Un mec comme notre petit Parisien qui est parti à la Juventus, lui, le mec, il va jouer au maillot, il va jouer pour son équipe. Et le problème, c'est qu'on peut faire empiler tous les joueurs que tu veux. L'autre, il joue Arsenal, il est blessé, on met un autre attaquant. L'autre machin, il est blessé. On veut rappeler M. Benzema qui est pas là, on s'en fout. Les mecs, chaque fois qu'ils jouent, ils jouent pour eux, ils jouent pas en équipe. Et ça me fait chier. C'est pas les absents qui ont toujours tort, ou ceux qui sont là qui ont raison, c'est que les mecs, ils jouent pas ensemble. C'est tout.
Ah,
Mbappé, vendredi, il a pas joué en équipe. Mbappé contre le Real, il a pas
si, attends, au début de la partie, quand ça allait bien, Mbappé il était intéressant. Notamment la balle où tout le monde croit qu'il va frapper, il décale bien.
Mais au début, mais à la fin du match, oui, il veut faire un centre en retrait pour donner un ballon.
J'ai précisé pendant au moment où tout allait bien, c'est au début.
Je te dis, Mbappé, en fin de match contre l'équipe de France, s'il veut faire un centre en retrait ou frapper, il va frapper. Moi, à la base, j'aime le foot depuis tout petit. J'aime le PSG. J'ai connu le PSG à l'époque de Raï, Benarbia, Loco. C'était pas le grand PSG. Moi, j'étais fan de Paoletta. Paoletta, c'est comme Cavani. Il est pas capable d'effacer un joueur. On est d'accord? Ces gars-là, ils n'étaient pas capables d'effacer des joueurs, mais ils mettaient des buts. T'as vu le but de Cavani ce week-end? Mais peu importe, il l'a fait, l'a retourné, il l'a cadré. C'est ça que je veux comprendre. C'est que les mecs, dans les grands clubs, quand ils sont bien payés, ils veulent faire gagner le match tout seul. Moi, je suis fan de basket. À la base, je suis basketteur. Et je suis fan des Lakers. Je suis fan de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Je suis allé voir Kobe Bryant. J'ai été le voir aux États-Unis. Ça m'a coûté, je dis pas le prix que ça m'a coûté. J'ai eu 4 matchs de lui. Mais c'est un mec, il faisait gagner son équipe tout seul, mais il était capable de faire des passes quand il fallait. Et ben, je suis désolé, à l'heure actuelle, au PSG, en équipe de France, en Italie, ben, c'est pareil, l'Italie. Elle est où, là, l'Italie? Ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, et ils se reprennent 2-0. Bah, l'équipe de France, c'est pareil.
Ouais, enfin, ils ont pas les mêmes problèmes, visiblement, les Italiens. C'est, leur problème, oui, c'est pas les stars, bah, les Français, c'est qu'ils en ont plus, justement.
Bah, le pire, c'est que les Français n'ont pas le même problème, on les paye cher, ils vont cher dans leur club, ils sont pas capables de jouer ensemble. Le problème, c'est pas un mec qui est présent, ou un mec qui est sur le terrain, c'est que les mecs, ils ne jouent pas pour leur maillot.
C'est un problème global d'état d'esprit pour toi, quoi.
On parle des absents qu'on tord, mais vous étiez, avant que vous me preniez, vous étiez en train de parler des joueurs qui voulaient absolument jouer pour leur équipe d'origine. Mais après, ils les ont pas pris. Donc, on les a pris en équipe de France, machin. On est encore en train de parler de, on joue pour l'équipe d'origine, machin. Mais stop.
Bah, tiens, stop, justement, Aurélien, faut qu'on stoppe. Dis-moi, Aurélien, détail très important, t'as un accent d'où, toi? T'en dirais que t'as un accent belge.
Hop là, non. Bah, non, moi, j'ai un accent de, où je bois un verre.
D'accord, bah, écoute, c'est dit. Voilà. Façon, tout non, mais là, tôt, je parle pas comme ça,
mais... Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste, quand je vois un Lucas Digne qui s'est fait défoncer quand il joue au PSG, qui est à moitié remplaçant au Barça, et puis qui a fait un match super,
non,
le Lucas Digne.
Il est pas à moitié remplaçant. Hein. Il est complètement remplaçant.
Oui, et ben il a fait un, honnêtement, c'est, après, on n'a peut-être pas vu le même match, mais moi j'ai trouvé que Lucas Digne sur le terrain, il s'est défoncé. Il a mis ses couilles sur le terrain, puis
oui,
il a
joué. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça n'a pas été le.
Et ben le message est passé, Aurélien, le message est passé. Merci Aurélien de nous avoir appelé, tu passeras le bisou, tu passeras le coucou, tu feras un bisou à GG de notre part, hein, bien entendu. Bien,
c'est important. Alors, on parle d'un problème, Aurélien parle d'un problème plus global, effectivement, mais qui est général et qui n'est pas propre aux Français, c'est le football d'aujourd'hui, effectivement, où t'as l'individualisation des mecs sur le terrain, voilà, c'est comme ça, et malheureusement, c'est
Pierre,
comme ça.
Faut que t'ailles t'échauffer. Dans quelques instants, la vie tranchée de Pierre Ducrot et concerne Benjamin Mendy. On vous attend au 32-16 dans quelques instants avec Pierre Ducrot, donc, et avec Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo et vous également ce soir, très nombreux sur le hashtag RMC Live, on vous attend au 32-16. On a eu l'avis de Daniel Riolo il y a quelques instants. Mardi, vous le savez, la France joue face à la Russie, match à suivre à 17h50. Tiens, sachez d'ailleurs qu'il y aura un tube du gars spécial Russie mardi à partir de 17h30. Et puis le super football show spécial match amicaux pour la préparation de la Coupe du Monde.
On n'a pas le choix, mais c'est un peu pourri comme horaire quand même.
17h50
oh ouais.
Ah ouais, horaire russe, va falloir s'y mettre hein, pour le mondial.
Horaire russe,
ouais, mais pendant le mondial, on pourra.
Horaire russe, aussi, mon Dieu.
Et on passe à la vie tranchée de Pierre Ducrot avec un jingle ou pas? Bien sûr, bah vas-y.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Ah, avec quoi alors?
Bah, avec d'autres choses.
Avec quoi?
Je mettais pas de musique.
Ça faisait. C'était moi l'artiste. C'était moi. Alors ton avis tranché, Pierre, il concerne un absent justement, parce qu'on parlait des absents il y a quelques instants avec Daniel, et c'est Benjamin Mendy.
Ouais, Benjamin Mendy qui. Bon, on est à peu près tous d'accord vu les carences au poste ou ce qui s'y passe régulièrement en équipe de France aurait dû être sûrement numéro un au poste à gauche.
Il était là, on le rappelle, hein, il était dans le groupe, il a assisté au match, voilà, il a été.
Oui, enfin, il était dans le groupe.
Il a été ausculté par le médecin de l'équipe de France.
Sauf qu'on va pas refaire l'histoire, tout le monde le sait, blessure grave en septembre. Vous allez me dire tout est ok, on est en mars, il est revenu début septembre, sauf que blessure septembre, il est revenu début mars, pardon, sauf que blessure septembre, longue convalescence comme tout le temps dans ce genre de blessure, réathlétisation avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, reprise donc début mars.
des séances normales ou presque, parce que quand vous avez été blessé de nombreux mois comme ça très très longtemps, il faut faire énormément d'efforts et travailler sur la fatigue. C'est important, c'est pas juste des mots, c'est une réalité. Pendant cette période de reprise, vous allez un peu dans le rouge, quoi. Vous travaillez énormément et vous allez un peu plus loin que ce que le corps peut encaisser pour revenir et pour réhabituer le corps à faire des efforts. Vous allez rejouer avec la réserve, c'est ce qui va bientôt se passer pour Mendy, normalement. Vous rejouez ensuite avec l'équipe première, si tout va bien. C'est logiquement ce qui va se passer pour lui, mais en même temps, quand vous reprenez la compétition pendant que les autres ont des périodes de repos, vous continuez vous à bouffer des séances de renforcement, des séances parfois même de foncier ou en tout cas de fractionner, etc., pour reprendre le rythme au plus vite, et que après la période de forme retrouvée avec tous ces efforts et tout ce travail sur la fatigue. Tous les joueurs qui ont eu ce genre de blessure vous le diront, il y a un énorme creux derrière qui est indéniable. Voilà, c'est un passage obligé parce que vous avez fait énormément d'efforts et que le corps à un moment donné a besoin de récupérer, d'être dans un creux pour repartir ensuite.
Mais c'est-à-dire c'est quand tu dis énorme creux, c'est combien de temps à peu près tu penses?
Bah ça dépend des individus, mais ça dure plusieurs semaines où tu peux jouer au foot, hein, il y a pas de souci, hein.
Mais t'es pas au top physiquement.
Mais t'es pas au top physiquement et en plus pour un joueur comme Mendy qui a besoin de
il fait
de
son énergie,
de voilà et puis même au niveau de la puissance, etc. C'est un joueur qui joue beaucoup sur son physique. Ces semaines-là de creux, j'ai très très peur parce que là son état de forme, sa reprise, etc. Ça va correspondre à la fin de championnat. Moi, j'ai très très peur que ce creux, malheureusement pour lui et malheureusement pour l'équipe de France, arrive en pleine Coupe du Monde. Et j'ai presque envie de dire qu'on va il aura repris, il sera rétabli, il sera opérationnel. Donc on va sûrement rappeler Benjamin Mendy et tant mieux. Parce que c'est un vrai bon joueur au poste. En tout cas, il était avant sa blessure.
Ouais, mais est-ce que tu crois qu'ils vont prendre la moitié d'un risque?
Alors, mais j'ai presque envie de vous prévenir.
S'ils ont déjà appelé Lucas Hernandez, c'est en prévision. Parce qu'ils se doutent que ça ne va pas être jouable.
Bah alors, soit c'est pas jouable du tout et tu ne le prends pas. C'est peut-être dur pour lui, mais tu juges qu'effectivement, il ne sera pas capable de faire 5-6 gros matchs, d'être ton numéro 1 au poste en 3-4 semaines. Parce qu'il sera dans ce creux-là. Soit tu le prends. Mais faut presque pas le prendre comme un numéro 1, quoi. Faut surtout pas attendre de lui qu'il puisse justement enchaîner ses 5-6 matchs de très haut niveau. On parle de matchs de Coupe du Monde. Peu importe que ce soit en poule ou après, ça reste des matchs de très haut niveau. Et d'attendre de lui qu'il soit très très bien lors de ces 5-6 matchs et qu'il nous fasse ce qu'il nous faisait avant avec les allers-retours, machin, puissance, dégommer tout le monde, etc. Voilà. Donc je, une fois de plus, tu vas avoir un choix à faire. Qui est presque pas un choix, voilà, et qui est un choix très difficile pour le sélectionneur.
C'est-à-dire que toi, tu ferais quoi? Tu le prendrais pas? T'as peur qu'il soit pas opérationnel?
Ou alors, il faut que tu prennes comme numéro 2. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'il va falloir que t'expliques aux gens que tu prends Mendy juste pour faire un match, voire deux peut-être, quand le numéro 1 doit se reposer ou est pas là. Mais et qui tu fais passer numéro 1 devant Benjamin Mendy?
Bah oui, ça aussi,
c'est compliqué. Hein, c'est toute la difficulté de ce choix.
Daniel?
Je suis d'accord. Je partage ce point de vue. Ça me paraît un peu compliqué. Depuis le début, on sent que je crois même que s'il y avait une solution évidente, on n'en parlerait même pas.
Oui, parce qu'on se dirait que de toute manière, il sera trop short.
Là, ils vont analyser, tenter le coup. Parce que c'est le désert. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Mendy qui vient au Stade de France, Mendy qui dit ça, Mendy qui fait ça. Parce qu'un mec qui a... Mais est-ce qu'il a 5 sélections? Il n'y en a même pas 5, Mendy, je
4,
crois.
4, je crois.
Voilà.
On s'en soucierait même pas. Je crois que c'est
4. Mendy, c'est un kidam des bleus. C'est un kidam des bleus.
Donc, logiquement, on se soucie des joueurs qui sont aptes à jouer.
Donc, ça veut dire qu'on a une énorme 4, carence à ce poste.
4, c'est ça.
Ouais. Voilà, tu vois, donc c'est un kidam des bleus.
Ouais. Et puis, il est tout jeune, hein, il a 23 ans, hein, Mendy, encore. Hein. Bon, ce qui est pas mal, remarque, cela dit. C'est pas...
Ce qui est malheureux, hein, parce que ça aurait dû être le numéro 1. Pour moi, ouais, ça aurait dû être le numéro 1.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Blessure. Maintenant, la question, c'est, et on n'a pas vraiment de réponse non plus, mais on fait quoi alors? Est-ce qu'il faut faire comme tu dis? Tu prends Mendy, tu mets numéro 2, mais tu mets qui en numéro 1
si
alors?
Si tu fais un choix logique, tu prends un mec qui peut être à 100% plusieurs matchs de suite, etc. Quitte à ce que tu saches qu'il y a peut-être un potentiel moindre que celui de Mendy, mais tu prends un mec qui est apte à disputer une compétition de 4 semaines comme ça. Et tu prends pas celui qui ne va pas l'être.
Et alors, si tu dois mettre un mec numéro 1, tu mets qui?
Là, c'est compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai très envie de voir Lucas Hernandez à gauche contre la Russie, là. Et de le voir même encore un petit peu après si c'était possible. Mais voilà, peut-être du côté de l'Espagne où il va y jouer très certainement la fin de saison.
Alors, partons du postulat.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce
partons
poste.
Partons du postulat.
Les deux postes à droite et à gauche, c'est compliqué.
Ouais. Partons du postulat, pour X raisons, alors qu'il soit pas prêt, qu'il se reblesse, qu'il soit pas vraiment remis, que Mendy aille pas au mondial. Tu mets qui en numéro 1, toi, Daniel? Au poste de latéral gauche.
Ah là, c'est... c'est impossible à dire. On n'a jamais vu Hernandez.
Bah, c'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait une bonne surprise.
Moi, je pense que mardi, on va le voir.
Mardi, on va le voir. En Espagne, il va finir la saison à gauche, donc logiquement. Donc, ça serait bien d'être très attentif à ça, ce qu'il va faire, quoi.
Ah, non, il y a impossible d'avoir un avis là-dessus. Bon.
Après, je suis d'accord avec Aurélien tout à l'heure. Lucas Digne a fait son match contre la Colombie, je trouve.
Mais sur la période où ça allait bien, je l'ai trouvé pas mal. Après, comme les autres, il a pris l'eau.
Il a pris l'eau, mais j'ai envie de te dire, dans les intentions, c'était mieux que certains, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas effectivement le titulaire où tu te dis ça va être lui et personne d'autre, quoi.
Eh ben, on attend vos avis, en tout cas, au 32-16 sur l'avis tranché de Pierre qui nous laisse sans voix, finalement. On va voir ce qu'en pense François, supporter de l'équipe de France, qui nous a appelé au 32-16. Salut François.
Oui, bonsoir.
Bonsoir François. Tu vas bien François?
Très bien, il y a tellement de choses à dire.
Alors attends, bouge pas, parce qu'il faut que je fasse de l'humain, comme dit Daniel. T'as fait quoi aujourd'hui? T'as profité du soleil ou pas?
Dans le sud, bien sûr.
Alors qu'est-ce que t'as fait?
Lui, il en profite tout le temps.
À Montpellier,
Quoi, barbecue, tu vois?
Non, mais
trop tôt. Trop tôt.
Encore un peu trop tôt. Ouais.
C'est avril.
Ouais,
je m'enflamme, tu vois, je vais faire du main et après je pars.
En ce moment, tu fais quoi? Tu prends le café le matin un peu sur la terrasse, quoi?
C'est exactement ça.
Ouais, c'est ça. T'envoies les mecs qui ont vécu.
Tu fais pas de barbecue au mois de mars?
Non. Non, pas quand tu peux en faire pendant 6 mois d'année après.
Voilà,
nous, on en fait au mois de mars quand il y a un rayon de soleil dans le jardin.
Après, c'est gâché.
On est pas sûr d'en faire.
Si tu t'y mets trop tôt, après, tu peux pas
galvauder. Ça casse le délire du barbecue.
Ah oui, tu peux pas commencer. Il y a chaque chose en son temps.
C'est vrai.
Chaque chose en son temps.
Alors vas-y, François. L'avis tranché de Pierre, donc qui concernait Benjamin Mendy, t'en penses quoi, toi?
Moi, je pense pas que c'est sérieux de faire jouer un joueur qui aura fait 0 minute sur cette saison et le prendre sous prétexte que c'est bon forcément le futur numéro 1 à ce poste. C'est pas sérieux de réfléchir sur ce Mendy si Guardiola le fait pas jouer.
Il va rejouer un peu, je pense, hein, François.
Ouais, entre un petit peu et ensuite la compétition qui arrive. Moi, j'aurais une proposition à faire, mais qui forcément on en a tellement de propositions à faire qui ne seront pas du tout entendues, mais rêvons un petit peu. Moi, je vois la porte jouer, par exemple, avec aujourd'hui City qui est très bon en charnière centrale et qui va avoir du temps de jeu. Pourquoi pas l'associer à Varane? Pourquoi pas l'associer à Varane dans l'axe et décaler un joueur ô combien intelligent qui est Umtiti et qui saura très très bien faire l'affaire. Et auquel cas, on a une défense solide. Umtiti à gauche, la porte
ce genre d'essai maintenant, là. Tu vas pas faire ça maintenant.
C'est que c'est
on est d'accord. Mais effectivement, alors moi je vois plus ça d'un joueur qui aujourd'hui est en activité que mettre un Mendy qui aujourd'hui a vraiment pas de temps de jeu. Est-ce que vraiment ça va tenir, pas tenir? C'est trop de questions. Vaut mieux penser à des joueurs qui sont en activité.
Moi je dis également que c'est trop de questions et qu'il faut pas l'emmener.
Exactement.
Il y a pas assez de références, il y a...
Vous croyez pas que s'il joue 4-5 matchs là, la mémoire immédiate,
la difficulté, ça va être que. Mais je suis d'accord avec vous en plus. Hein, c'est ce que je vous ai dit dans mon avis tranché d'ailleurs. Mais la difficulté, ça va être qu'il va reprendre là avec la réserve bientôt. Il va avoir 5-6 matchs. Tu vas voir avec en plus City va pouvoir le faire jouer en championnat sur la fin de saison et qu'on va être dans une situation ou en tout cas que le sélectionneur va être dans une situation avec un joueur qui sur le moment en plus va être en forme parce que quand tu reviens comme ça, tes premiers matchs c'est pas les plus difficiles finalement. C'est ceux qui sont un mois après. Et il va être dans la situation de ne pas prendre un joueur qui va être performant sur le moment, mais dont tu sais qu'il risque de l'être moins pendant la compétition. C'est compliqué.
Non, mais moi, je ne suis pas pour qu'effectivement on prenne un joueur qui n'a pas joué. Là, ça paraît quand même assez compliqué.
Bah, c'est plus ça, tu as raison.
Voilà, je pense ça, mais il y a... Et voilà. Et je voulais, est-ce que je pouvais juste me permettre de revenir sur quelque chose qui a été dit après le match de l'équipe de France?
Oui, vas-y.
Très bien, merci. En fait, c'est un débat que j'ai eu ce matin avec Ali Benarbia parce que effectivement il a cessé de remettre ça sur le tapis et comme Didier Deschamps a pu le faire après son match d'équipe de France où on confond tout pour moi, c'est-à-dire que on place l'agressivité, on dit que l'équipe de France se manque d'agressivité, elle a manqué d'agressivité. Je pense que c'est un faux débat et que c'est pas du tout d'agressivité dont elle manque, mais c'est plutôt de jeu et
c'est
d'approcher
ce que disait
de
Daniel tout à l'heure.
Et voilà, effectivement, et moi je pense qu'à un moment donné, quand on a des bons musiciens, il faut un bon chef d'orchestre. parce que sinon je pense que la partition elle est pas bien jouée et donc de mettre le problème problématique de l'équipe de France sur un problème d'agressivité, je trouve que c'est vraiment déplacer le problème. Hein, et que on est forcément en manque d'agressivité quand on est en manque de projet. Je pense que les joueurs de haut niveau, ils attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir entre guillemets un Guardiola, parce que l'équipe de France à chaque poste, elle peut être l'équipe d'Espagne. Voilà. Et moi, je pense qu'à chaque poste, elle n'est pas l'équipe d'Espagne, elle n'est que l'ombre d'elle-même.
Donc François, si je peux me permettre,
bien sûr.
Sur l'agressivité pure et dure, oui, t'as raison, effectivement, c'est pas ce qu'il faut reprocher au bleu là. Moi, quand je parle d'un état d'esprit qui a pas été bon ensuite en seconde période, c'est que même les équipes de Guardiola et surtout les équipes de Guardiola regardent à la perte du ballon comment elles sont. Regarde les trois attaquants comment ils font. Regarde les milieux de terrain, la réaction qu'ils ont. Et ça, c'est ce qui nous a manqué en seconde période, et c'est pour ça qu'ensuite on n'est plus du tout dans la maîtrise de ce match-là.
Oui,
c'est que pas de réaction, il y a pas de transition défensive. T'as des joueurs qui sont capables à la perte du ballon de s'arrêter net et de regarder.
Non mais François, juste si je peux me permettre, parce que c'est vrai que à chaud il y a eu beaucoup d'analyses comme ça. Si tu veux, je pense que ce qui a choqué pas mal de supporters et de gens qui ont vu ce match, c'est pas
l'agressivité.
C'est l'attitude globale, ouais. C'est la question de motivation. C'est des mecs qui rentrent en cours de jeu, qui sont pas forcément concernés par ce qui se passe. Enfin, si tu veux, il y avait tout un état d'esprit global. Après, de dire que si la France a perdu ce match, c'est pas lié qu'à ça, j'ai envie de te dire, ça paraît presque logique. Oui, t'as raison de mettre le doigt sur d'autres choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que Deschamps, dans sa communication, il a été très intelligent et habile là-dessus. Lui, l'analyse du match à la fin, elle a été simple, c'est de dire, on a manqué d'agressivité. Ce qui nous a manqué, c'est l'envie, etc. Et puis, c'est mettre de côté, mettre sous tapis. Le vrai problème.
Mais quand on récupère le ballon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux bien, mais on a quand même récupéré des ballons et il se passe rien. C'est quand même en football. Mais le football moderne, le football de l'Espagne, de l'Allemagne, de ce que fait Guardiola, enfin, depuis toutes ces années qu'on a oublié, quand on a quand même récupéré le ballon et derrière, on n'en fait rien de ce ballon. Donc, c'est pas un problème d'agressivité.
Je suis d'accord avec toi, François.
Les ballons, on les récupère, les ballons. Mais derrière, il se passe rien. Enfin, c'est ça qu'il faut dire au grand public, aux gens qui écoutent RMC. Heureusement qu'il y a l'after. Franchement, pour nous entraîneurs, moi je suis un petit entraîneur, mais heureusement qu'il y a l'after, parce que sinon c'est une purge quoi.
Les
émissions sur RMC, c'est une purge. Heureusement qu'il y a Daniel, tout ça, pour un petit peu élever le débat. Mais c'est une catastrophe.
Et François, qu'est-ce que tu demandes, ou plutôt la différence pour toi entre la première demi-heure qui est très bonne et le reste qui est moins bon?
Moi je suis désolé, Daniel va me dire, pour moi c'est par défaut ce qui s'est passé. C'est parce que les joueurs, à un moment donné, ils sont rentrés sur le terrain, le match il a démarré, et comme ce sont quand même des très bons joueurs de football, parce que ce sont de très bons joueurs de football, il s'est passé des choses dans les mouvements, dans les déplacements, ça a été merveilleux, ça a été extraordinaire, et preuve en est. Pourquoi comme ça, au bout de 25 minutes, on a pris le but, il s'est plus rien passé? Parce qu'il n'y a pas de projet. Donc forcément, ça s'est effiolé au fur et à mesure du temps, et puis la Colombie, qui est quand même pas une équipe manchotte, elle a récupéré un petit peu le ballon, elle a repris le jeu un petit peu à son compte.
Elle a fait une petite modif tactique.
Et voilà, exactement. Et puis, derrière, on n'a plus su rien faire parce que l'équipe de France,
elle ne sait rien faire.
Sauf François, en tant que coach, tu vas le savoir, sauf que les ballons que tu récupères dans la première demi-heure, tu récupères avec un bloc qui est très compact et donc tu peux ensuite proposer quelque chose en étant proche les uns des autres, lancer le deuxième but, on est le parfait exemple.
Non, mais dès qu'il y a une réaction que tu récupères, pour eux c'est fini.
Ça, mais en seconde période, on va se limiter à la seconde période, même si c'est un peu plus long que ça, le moment où les bleus n'y sont pas. T'as une distance entre les lignes qui est énorme parce qu'il y en a qui reviennent plus. T'as une défense du coup qui est même beaucoup trop basse par rapport au milieu de terrain.
On y va,
et que du coup tu ressors pas du tout les ballons. Je suis d'accord, comme il le faudrait, parce que t'as un manque de cohésion collective. Et ça, c'est lié à une
année. J'arrête les gars, faut qu'on y aille.
Il y a la pub là.
On n'a pas le droit de dire pub à l'antenne, tu sais. Alors merci François qui nous a appelé au
32.
Attends, je vais t'envoyer le pavé que nous a envoyé Cyril Méjeanne sur les éléments de langage à respecter en radio. C'est très important et c'est très instructif.
Tu veux dire que c'est le mot qui va pas?
Explique-moi avec intelligence pourquoi on n'a plus le droit de dire pub.
Un peu de réclame.
Écoute, moi, alors je vais te l'expliquer pendant dans quelques instants, on se retrouve. Et pendant ce temps-là, moi je vais expliquer un truc. A tout de suite pour la suite de l'after avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot, et Daniel Riolo, et vous, au 32-16 et sur le hashtag RMC Live.
Surtout vous.
Voilà, surtout vous. Mardi, il y aura le match de l'équipe de France à 17h50 en Russie, match de préparation pour la Coupe du Monde 2018 qui est dans 80 jours. Ça vient, hein, vite. Oh, t'as reçu ton planning?
Le temps d'un tour du monde, dis donc.
Absolument pas.
C'est vrai? Franchement, c'est lourd, mais c'est tellement, c'est lourd. C'est le mot qui convient. Exactement. Les phases finales, c'est des trucs toujours.
Bien sûr.
Oh là là.
Tu me donneras ton planning quand même, que je sache quand est-ce qu'on peut se voir entre deux.
Ça va être chaud, je te l'annonce. Ça va être très chaud. On va évoquer un petit peu le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations pendant cette trêve internationale de la part de joueurs du Paris Saint-Germain.
Même quand ça joue pas, faut qu'on parle du PSG.
On va commencer par Thomas Meunier. Alors c'était avant-hier en marge du match de la Belgique face à l'Arabie Saoudite. Il s'est exprimé sur sa situation en club, Thomas Meunier. J'attends beaucoup, dit-il, en parlant de la saison prochaine, car beaucoup de choses, comme le coach, vont changer. J'aurai peut-être plus de temps de jeu. Je devrais bien l'utiliser. J'ai plus de confiance en moi qu'il y a deux ans. Je vois le futur sans pression. Voilà, j'ai besoin de m'affirmer en club, a-t-il dit encore. J'ai besoin de montrer ce que je sais faire. Le club connaît ma position.
Ah oui, donc, il a fait un droit.
Voilà. Alors, voilà, c'est pas mal ça. Donc en fait, le mec il t'annonce que Unai Emery va se barrer alors qu'il y a rien d'officiel. Hein, pour
mais alors honnêtement, autant il y en a qui qui parlent. Non, mais attends, mais laisse-moi finir.
Tu
vas être d'accord. Tu vas être d'accord. Honnêtement, on en a tellement parlé de la fin d'Unai Emery que pour les joueurs, comme pour tout le monde, nous, les joueurs...
C'est dans l'inconscient.
Mais c'est acté, ça y est, c'est fini.
Ouais, enfin, c'est pas... Oui, mais
on l'a tellement dit. Le club n'a jamais démenti quoi que ce soit, d'ailleurs. Voilà, c'est réglé. Son sort est réglé. Voilà, basta. Donc, pour lui, il pense même pas faire une gaffe en disant ça, je pense.
Alors ça, c'était avant-hier.
Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi, moi.
Alors vas-y.
Ben,
dis-le,
je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Meunier, mais là, je trouve que le mec, il déconne complètement, quoi. C'est bien
là-dessus
beau
sur Unai Emery.
Bien sûr, c'est bien beau de parler comme il fait tout le temps et d'être la plupart du temps intelligent quand il parle et d'avoir eu la sympathie de beaucoup, notamment des médias. Mais ça excuse pas qu'à un moment faut aussi savoir te taire. C'est pas tes affaires de gérer la vie du club. C'est pas à toi que revient le droit de dire l'entraîneur va se barrer ou pas. Tu te mêles de ton cul, bonhomme, et tu viens pas dire à tout le monde, même si on le sait, qu'Emery doit s'en aller parce que c'est encore ton coach.
Alors, il dit pas qu'il doit s'en aller. Il dit qu'il va partir. Ouais.
Voilà.
Comme beaucoup de choses ont changé, dont le coach qui va partir.
Ils ont encore une dizaine, tout compris, un petit peu moins d'une dizaine de matchs à jouer ensemble. Je trouve que c'est pas très respectueux, même si on sait qu'il va partir. Je pense qu'il a pas à dire ça. Je pense que c'est une faute de sa part.
Et ben moi, tu veux que je te dise,
moi je suis directeur sportif, je le mets à l'amende pour un truc pareil.
Je pense qu'il a la mauvaise de prévu.
Mais c'est très bien que tu finisses par ça, Daniel. Je vais te dire pourquoi. Je devrais être d'accord avec toi et tu as raison et je devrais être d'accord avec toi. Sauf que si tu replaces dans le contexte, c'est un des rares qui a souvent parlé intelligemment, qui a pas trop ouvert sa gueule.
Ouais, ben là,
c'est un des rares.
Il s'est trompé. Hein.
Qu'on n'a pas appelé au bon moment pour moi. C'est un des rares qu'on a mis sur le banc alors qu'il devait jouer. Le mec intelligent, comment fonctionne ce club aujourd'hui? Justement, le directeur sportif, à un moment donné, il aurait peut-être dû taper sur la table.
Ah, tu veux dire que s'il fait ça, c'est parce qu'il a vu que ça marchait comme ça.
Il pense qu'il est un peu le couillon de l'histoire et qu'à un moment donné, si lui, il l'ouvre pas, et ben, malheureusement, c'est lui qui va se faire avoir. Moi, je pense que parce qu'il est intelligent, justement, il a compris le système.
Toi, tu me donnes l'explication de pourquoi il a fait ça, mais ça n'empêche pas que, aussi bien pour lui que pour tous les autres qui parlent à tort et à travers, et jamais comme il faut, parce que jamais personne ne parle comme il faut dans ce club, c'est une erreur. Et pour moi, il est à la
bonne. Quand il faut, on a l'impression.
Oui, mais c'est un peu le malheureux. Heureusement, ce qui se passe, et moi je pense qu'il a envie d'exister, quoi. Tu vois, il se dit si je le fais pas, je
m'en sors. Autre déclaration pendant cette trêve internationale, Angel Di Maria, qui était capitaine lors du match face à l'Argentine, Angel Di Maria, lui aussi, il s'est exprimé. Il y aura un grand changement la saison prochaine, a déclaré Angel Di Maria. C'est moins violent. Alors Javier Pastore, lui aussi, il a parlé, Onda Cero. Il a dit, je pense que ce sera une saison, en parlant de la saison prochaine toujours, où il y aura beaucoup de changements, a-t-il déclaré. Cette saison, Antero est venu et il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Le temps de bien connaître l'équipe, il va y avoir du changement, a déclaré Pastore. Il a poursuivi, mon cycle à Paris touche à sa fin.
Les mecs,
je m'en suis rendu compte.
Dans la saison d'après.
Nous verrons
incroyable.
Pour mon futur. Il me reste un an de contrat, je n'ai pas encore les idées claires. Je ne sais pas comment ça va se terminer.
Ah d'ailleurs, je voulais dire à ce sujet, parce que j'ai fait un feuilleton un petit peu tout le temps là. Luis Enrique, la cote baisse un peu.
Alors
il est toujours en pole position, mais le problème, c'est pas qu'il monte. Le problème,
c'est qu'il veut venir.
Et non, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est qui décide. Parce qu'il y a peut-être remaniement au niveau de qui décide.
Est-ce que c'est un émir? Est-ce que c'est un président de club? Est-ce que c'est un directeur sportif? Est-ce que c'est un...
Vous avez vu l'info d'ailleurs.
Est-ce qu'un tel met la pression pour un tel? Est-ce qu'un tel met...
Vous avez vu l'info avec...
Et là, d'un coup, hop, là, c'est un peu reparti.
Vous avez vu l'info de Paris United, puisqu'on les évoquait d'ailleurs tout à l'heure, qui a balancé une info il y a deux jours en disant que, à Doha, ils aimaient bien le dossier de Sergio Conceição qui entraîne le FC Porto maintenant, mais que le dossier n'est pas partagé par tout le monde en interne, y compris Antero. C'est-à-dire que ça a été fait à Doha avec son agent l'agent de Sergio Conceição, et avec l'appui d'une autre personne très influente au Paris Saint-Germain, qui a été très influent dans l'avenue de Neymar également, et que
on
a ça rejoint ce
qui?
Que tu dis.
On n'a pas le droit de dire qui?
Aussi, c'est sa vie, quoi.
Oui, voilà. Mmh.
Et il y a un jeu géopolitique en interne qui est un peu complexe en ce moment, et ça concerne le dossier de l'entraîneur.
C'est quand même absolument hallucinant.
Non, mais tu sais quoi?
Que ça se passe comme ça, quoi.
Ouais, voilà. Non, mais tu sais quoi, moi ça me dérange pas qu'un directeur sportif.
Je viens me dire que ce club ne va peut-être pas y arriver.
Mais moi ça me dérange, c'est tellement ça me dérange pas qu'à un moment donné de choisir un poste si important, qu'un directeur sportif, un président, soit pas forcément en accord tout de suite, etc., échange. Bon, une fois de plus, ce qui me sidère, c'est que déjà, un, ça aille jusqu'à l'émir, et que deux.
Bah, c'est lui qui décide, hein.
Non, et puis que deux, on soit encore au courant de tout, quoi.
C'est pas faux.
Moi, c'est ça qui me sidère.
Ce club est une passoire.
Alors, bravo à celui qui sort
une passoire avec
les
gros trous.
À ceux, parce qu'ils sont plusieurs.
Ouais, ou ceux CEX.
Après, il y a des trucs qu'il faut pas se leurrer. On sait comment ça fonctionne. Ça vient en interne aussi. Hein.
Ouais, pour que ça ouais,
mais la plupart du temps, c'est comme ça. Ça vient de l'interne parce que ça permet justement de placer ses vies.
Et on en revient à des joueurs qui parlent trop. Mais en même temps, quand ça se passe comme ça, comment tu veux leur. Si, tu peux leur reprocher, mais comment tu ne peux pas ne pas comprendre.
Alors, la question, justement, alors que Jérôme Thomas, notamment, notre producteur, s'est posé aussi en préparant cette émission. Est-ce que vous pensez que le PSG est assez fort pour terminer la saison en roue libre? Parce que visiblement, chacun dit et fait ce qu'il veut.
Enfin, moi, oui, moi, je pense.
Mais c'est quoi en roue libre? Le titre, c'est fait. La Coupe de France, il faut un cataclysme. Il y a un match compliqué.
C'est Monaco.
Un match compliqué, c'est Monaco samedi prochain.
C'est tout.
Même en autogestion, ils peuvent le faire.
Ah, puis tu sais quoi, ils vont en perdre quelques-uns en Ligue 1, c'est pas grave, quoi.
Mais voilà.
Tu t'en fous. Non, on devrait pas, mais c'est comme ça que ça va se terminer.
Le match de la Ligue, ils le veulent.
Oui, bien sûr qu'ils sont assez.
Après, attention, Monaco, c'est pas mal du tout en ce moment.
C'est costaud.
Ça va pas être simple, le match, mais.
Non, mais ils sont capables de faire le bon match, le bon jour, parce que ça va les intéresser, puis parce qu'il y a un titre au bout, etc., quoi. Donc oui, moi je pense qu'ils ont suffisamment de qualité pour finir comme ça. Ouais.
Concernant le dossier de l'entraîneur, puisqu'on l'évoquait il y a quelques instants, le Guardian a annoncé que ça discutait avec Antonio Conte aussi. Il y a beaucoup de rumeurs.
Mais
ces derniers
ça discute un peu avec tout le monde.
Ça discute avec tout le monde. Ouais.
T'as des infos un peu toi en ce moment?
Non, c'était Luis Enrique qui tenait vraiment la corde, et là ça. Je te dis, il y a tellement de vecteurs de canaux de décision que tu sais plus en fait qui tu dois écouter. Donc voilà.
Eh ben c'est dit. Merci messieurs.
Voilà.
C'est la fin.
Voilà.
Ça tombe bien, moi j'avais pas d'infos.
Hein?
J'ai dit ça tombe bien que sur la fin parce que j'avais pas d'infos.
Eh ben voilà. Écoute. Allez, le RMC Poker Show.
Je joue au poker, moi je vous laisse les amis.
Donne le menu. Ah ouais. Là, parce que les gens ils sont là, faut faire du teasing, Daniel.
On a Paul-Henri Mathieu. Jeune retraité. Très bien, c'est vrai.
Du tennis.
Du tennis. Voilà. Et
fan du Paris Saint-Germain.
Et Adrien Delmas. Je crois pas.
C'est ce que m'a dit Jérôme Thomas.
Autant parfois il se pose les bonnes questions, mais parfois il a pas les bonnes réponses.
Qui est le vainqueur de la
Attends, il dit j'ai vérifié, je suis pas sûr. Il est là, tu vois.
Non, mais je crois qu'il est pas sûr en fait. Il est pas sûr du tout.
Strasbourg, dit. Oui, il est né à Strasbourg d'ailleurs pour Henri Mathieu.
Il doit être
supporter du Racing.
Comme Gilbert, il est fan de Gilbert.
Allez, à tout de suite pour le Poker Show. Merci. Merci Daniel. Merci Pierre. Petit se barre alors qu'on est en train de filmer encore. Ils n'ont rien à foutre, Daniel Riello. Merci à Jérôme Thomas, toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous tous. Et oubliez pas, mardi. Team Dugas spécial Russie à partir de 17h30, le match qui est
Russie, France.
17h50, et dans la foulée, eh bien, un match spécial, une soirée spéciale, un super football show spécial, match de préparation.
Oh, c'est dur,
c'est relou.
Oh, elle est dure à la fin.
Bisous.
Minuit, 1h, RMC Poker Show.